Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Culture et information en priorité.
Amis du polar et du roman noir, bonsoir.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar qui est toujours la plus rock de la bande FM.
Ça, on verra au morceau de musique choisi. Au sommaire de cette émission, en deux parties comme d'habitude. Dans la première, on va faire une spéciale Ken Bruen, cet auteur irlandais qu'on aime tant. Et puis, en deuxième partie, nous ferons, on va dire, la part belle à ce qu'on peut appeler un petit éditeur au grand talent. Puisqu'on va parler de deux de ses romans. Et on fera un petit détour par la BD et les magazines. Ça, c'est une petite surprise. Donc, comme je vous le disais, on va vous parler de Ken Bruen. C'est un auteur des plus prolixes, puisque, en cet automne, trois actualités chez trois éditeurs différents. Nous avons déjà Le Démon, série Jack Taylor. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est le flic qui s'est fait virer pour alcoolisme à Galway en Irlande de la Guarda. Ce sont les flics irlandais. Apparemment, pour se faire virer pour alcoolisme des flics irlandais, faut boire pas mal. Et ben, lui, il est arrivé. Il est devenu détective privé. Donc, je sais pas si je l'ai dit, ça s'appelle Le Démon et c'est chez Fayard Noir. Deuxième roman, deuxième série de Ken Bruen, c'est celle des Robert and Brant. Ceux-là, ils ne sont pas encore fait virer, mais on aurait pu penser, on aurait pu le croire un jour. Non seulement ils boivent beaucoup, sont plutôt violents, et on peut dire qu'absolument rien ne les arrête, et c'est surtout pas les coups foireux. Sauf peut-être une petite truc pour Brant, lire un livre de son héros, Ed McBain, et son célèbre 87e district. Et ça, c'est quand même pas un défaut. C'est apparemment leur dernière apparition, ça s'appelle « Munitions ». C'est à la série noire, chez Gallimard. C'est donc traduit par Daniel Lemoine. Et comme Ken Bruen, il a encore plein de choses à dire, on a aussi des hors-séries. C'est le cas de celui dont tu vas nous parler, Jacques.
Oui, qui s'appelle Tower. Et donc, il a écrit avec un auteur américain qui s'appelle Reed Coleman.
Et tu pourrais nous citer le nom? Ah oui, tu l'as dit, pardon, l'éditeur, Tower. Excuse-moi.
Et l'éditeur, c'est Rivage Noir. Et le traducteur, c'est Pierre Bondil.
Oui, effectivement, je vais le dire justement tout à l'heure. Je parlais donc de la série des R&B pour Robert et Brant, comme on dit pour ces flics ripoux. On les avait découverts il y a très longtemps, enfin assez longtemps, dans un roman à la série noire, petite collection à l'époque, qui s'appelait Le Gros Coup. C'était il y a 7 ans. 6 romans plus tard, ils sont toujours aussi starbés, et le monde qui les entoure ne va pas bien non plus. Les autres flics sont soit des névrosés dépressifs, soit des salauds intégraux. Et de l'autre côté, il y a les méchants. En fait, on ne sait pas vraiment dans ces romans qui sont les plus méchants. Et de l'autre côté, les méchants, eh ben, ce sont des névrosés, mais ils sont plutôt sociopathes. Et puis, il y a aussi des salauds. On sent dès le début de cette aventure que ça va mal se passer. Ceci dit, c'est tout le temps le cas. Brant vient de perdre son héros. Ed McBain est mort. Alors, petite parenthèse, le roman a été écrit en 2007, Ed McBain est mort en 2005, mais pour la beauté de l'histoire, Ed McBain vient de mourir dans le début, donc de Munitions, et en plus son
appelé... Donc en 2012 pour les Français.
Voilà, la traduction 2012, traduction de Daniel Lemoine. Donc son acolyte préféré, Robert, il se fait tirer dessus. Je vous rassure tout de suite, il s'en sortira toujours plus vindicatif.
De toute façon, c'était déjà arrivé.
Voilà. Et on va retrouver, il s'est construit une petite brigade, hein, c'est pas pour rien qu'il admire autant Ed McBain. On va retrouver les personnages rencontrés dans les précédents. Ils sont toujours là. Il y a Nash, qui semble bien être à la fois le seul flic homo, je le plains dans cette brigade-là, mais le seul flic intègre. Et puis, il y a un personnage qui a pris petit à petit de l'importance, il s'appelle Falls. Elle prend du galon. En même temps qu'elle se laisse aller à la folie ordinaire. En gros, en tant que femme, dois-je dire femme, oui, elle semble bien vouloir concurrencer Roberts par ses coups fourrés. comme d'habitude.
Elle était à bonne école, faut dire.
Voilà. Comme d'habitude, on n'a pas vraiment d'intrigue. Tout au moins pas celle qu'on a envie de découvrir à tout prix et ça ne fait pas un page-turner. Est-ce que Robert va découvrir son agresseur? Bof, on s'en fiche un peu, quoique. Est-ce que False va coincer son Happy Flapping Man? Alors, j'explique un peu, hein. Il y a eu une mode comme ça de happy flapping, c'était des gens qui dans la rue, dans les collèges, dans les lycées, tout d'un coup, pour rien, foutaient une baffe à quelqu'un, pendant que une autre personne, un acolyte, on peut tout dire, dans ces romans de Ken Bruen, on pourrait dire les alcooliques, mais c'est autre chose, donc prenait une petite scène en vidéo et le passait tout de suite sur un réseau social. Donc, il y a un type du happy flapping qui sévit dans la ville. Elle veut l'attraper à tout prix, mais est-ce qu'elle va pas faire nous faire aussi un gros coup fourré? En gros, tout ça, on s'en fout un peu. Le régal, c'est bizarre ce que je vais dire, mais le régal, c'est de voir patauger ces personnages dans leur quotidien, qui en gros fait debout, de sueur et de sang. Un peu antinomique, mais c'est un régal quand même. Vous allez me dire, c'est peut-être triste. Qu'une nenni. L'humour est omniprésent, corrosif et décapant. Et Ken Bruen mène ce récit tambour battant. Bon, sur ce dernier, c'est un peu dommage d'ailleurs si c'est le dernier, ça reste un peu décousu et c'est pas le meilleur de la série. Mais quand on aime Ken Bruen, on veut l'intégrale et donc il faut absolument lire ce bouquin qui s'appelle donc Munitions, qui est paru à la série noire dans le grand format et je rappelle qu'il est traduit par Daniel Lemoine.
Et connaissant Ken Bruen, même s'il dit que c'est le dernier, c'est pas forcément le dernier.
Ah ben, tu l'as pas lu.
Non.
Peut-être qu'il y a des choses à la fin, mais je veux rien dire.
En même temps, s'ils meurent tous les deux, c'est sûr que ça risque. Mais bon, Sherlock Holmes,
mais
il
non,
a fait ressusciter.
Mais non, mais je dis rien.
Bon.
Voilà, Jacques, à toi.
Alors, donc, le roman s'appelle Tower. Et donc, en fait, Corinne parlait de deux séries, mais ça, c'est aussi une série, en fait. Une série que Ken Bruen fait de romans à quatre mains ou à deux claviers, avec des auteurs américains. Alors, il a commencé avec Jason Starr. Il en a écrit trois, il n'y en a qu'un seul qui est traduit dans la collection Seuil policier. Il s'appelle Sombre dessin. Et là, ben, en fait, il continue sa série avec un autre auteur américain, mais qui est, tout comme Jason Starr, un mec de Brooklyn. Il a l'air de...
Enfin, il y en a quelques millions des mecs de Brooklyn.
Oui, mais Brooklyn, auteur de Polar, Ken Bruen. Puis bon, c'est vrai qu'il faut dire que New York et Brooklyn est quand même la deuxième ville probablement irlandaise du monde, donc... ça va bien. Alors là, c'est un roman donc à quatre mains, à
deux claviers,
tu l'as dit. Et deux histoires. Enfin non, une seule histoire, l'histoire de deux personnages.
Je te rappelle qu'on écrit avec une main, voilà. Parce qu'on va avec l'autre, mais on écrit qu'avec une main.
Et non, sur le clavier, on peut taper avec deux mains.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui, au moins pour faire les majuscules. Donc en fait, c'est l'histoire de Nick et Todd. Alors Nick, c'est un Irlandais d'origine. Ils habitent Brooklyn. Todd, il est plutôt juif d'origine. Enfin, pas plutôt, il est carrément, en fait. Et il habite aussi Brooklyn. C'est des copains d'enfance, des frères de rue, en fait. Ils ont grandi ensemble, ils sont devenus adultes ensemble. Et ils sont devenus truands ensemble, en fait. Alors, on ne sait pas trop qui a suivi l'autre, mais enfin, bon. Ils le sont tous les deux, maintenant, dans le gang de Boyle, qui est irlandais d'origine. Et Boyle, c'est un mec, c'est une petite bande, mais il est plutôt impitoyable et assez violent. Et donc l'histoire va être racontée en deux parties. La première, c'est la vision de Nick, et la deuxième partie sera donc la vision de Todd. Et ce qui est étonnant, c'est que ces deux visions, elles se complètent, elles se contredisent parfois, bien que ce soit, ils racontent la même histoire, mais vu des deux côtés. Évidemment, il faut dire que pour que donner un petit peu de piment à cette histoire, les flics décident de mettre fin aux activités de la bande de Boyle. Et donc, du coup, ils vont s'attaquer à la fois à Nick et à Todd, entre autres. Et ça va mettre un petit peu leur amitié plutôt à mal. Alors, moi, j'ai pensé, en lisant, que bon, la partie de Nick, c'est racontée par Nick, c'est pratiquement évident que c'est Ken Bruen qui l'a écrit, parce qu'on y retrouve beaucoup de ses, pas de ses tics, mais disons de ses habitudes, c'est-à-dire les énumérations, les références littéraires nombreuses, les références musicales. Alors ici, il y a Neil Young, entre autres, Tom Waits, The Clash, que de la bonne musique. Et donc là, il parle aussi de quelques auteurs, dont Eoin Colfer, dont on avait parlé ici. Voilà, donc c'est ça, on sent bien que Ken Bruyen a écrit la première partie. Donc j'en ai conclu assez rapidement que c'était
Reed Farrell
Conman qui avait écrit la deuxième. Mais bon, avec Ken Bruyen, peut-être en fait on se trompe complètement, ils ont écrit un chapitre chacun.
C'est peut-être un exercice de style à dire. À la Poudlard.
Voilà. On sait pas, mais bon, ça donne un peu ça. Et Coleman aussi donc a écrit une série qui est publiée chez Phoebus. Et dont le premier tome a été réédité dans la collection Point Seuil. Voilà, donc c'est un roman assez noir, très vif, avec une écriture qui est plutôt incisive. On sent que bon, quand même, que les deux se sont un peu amusés à écrire un truc de tough guy dans Brooklyn. Bon, on pense tout de suite au cinéma, à Scorsese ou à James Gray.
Peut-être un peu aussi à James Gray. Jérôme Charine, non? Peut-être.
Oh non.
Avec Jérôme... Marilyn Ladingue, non?
Non, parce que il y a pas ce côté de Marilyn Ladingue. Il y a un côté un petit peu poétique, un peu légèrement. Voilà, là non, pas du tout. Là, c'est vraiment ancré dans la ville, dans l'action. C'est brut de décoffrage. Bon, en même temps, et puis c'est quand même parfois assez violent. Mais des fois, c'est assez voluptueux aussi, puisqu'en fait, il y a deux femmes. Donc il y a en fait en gros une femme pour chacun des deux héros.
Une femme pour Nick, c'est bien.
Une femme pour Nick, voilà, une femme pour Todd. Et là en fait, par contre, les deux femmes, elles savent parfaitement ce qu'elles font et ce qu'elles veulent faire de leur vie et si j'ose dire de celle de leurs hommes respectifs qu'elles mènent par le bout du nez et c'est en fait elles qui maîtrisent toute l'action.
Bref, la vie quoi.
Bref, la vie, voilà. Donc en fait. C'est pas aussi drôle que les romans de Robert Rembrandt. C'est certainement moins noir que le roman dont tu vas parler tout à l'heure, des aventures enquête de Jack Taylor.
Déambulation
de Jack Taylor. Et par contre, ce dont j'ai pas parlé, c'est cette fameuse Tower. Mais bon, comme ça se passe à New York, je vous laisse deviner ou trouver ce que cette Tower est.
Et c'est au singulier.
Et c'est Tower au singulier, oui.
Voilà.
Non, oui, c'est pour ça, il y a un petit piège.
Un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. Donc, nous allons écouter un morceau. Je vous disais qu'il y a beaucoup de références musicales dans ce roman. Eh ben, c'est très simple. Je l'ai choisi dans le roman. C'est un morceau de Albert King qui s'appelle Born Under a Bad Sign, ce qui va très bien pour les deux personnages de ce roman et qui ira encore mieux pour Jack Taylor tout à l'heure. Et donc, en fait, ce roman, il évoque, c'est plutôt Todd qui évoque cette chanson à propos de Nick et de sa rage contenue. Et donc là, nous allons écouter un fichier, donc numérique, forcément, nous sommes à la radio, mais qui est extrait directement d'un vinyle. Donc, Albert King avait sa section rythmique de la Stax à l'époque, Steve Cropper, Booker T. Jones et le regretté bassiste Donald Duck Dunn. For bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble been my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born on a bad sign, been down since I began to call. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. I can't read, I didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born on a bad sign, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I said I wouldn't have no luck at all. That ain't no lie.
Eh bien, ça tombe très bien parce qu'effectivement, Born Under the Bad Sign, c'est tout à fait ce qu'on pourrait dire de Jack Taylor. Et nous voilà donc à Galway, avec le détective privé le plus névrosé et le plus dépressif de toute la littérature polar, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Jack Taylor. Nous en sommes au 8e roman, avec donc ce personnage de flic viré de la Guarda. Je rappelle quand même, c'est un roman qui est publié chez Fayard Noir. Ça s'appelle Le Démon. La couverture est absolument superbe. On pense à une photo de Marlon Brando. C'est magnifique. Et c'est traduit par Marie Plou et Catherine Cheval. Avec Jack Taylor, on a tout vécu. Toutes les descentes aux enfers dans les 7 premiers. Ses deuils, en particulier la fille de leurs amis, Serena, dont il se sent responsable. La mort de celui qui aurait pu devenir son fils adoptif, Cody. On a partagé ses dégoûts pour les assassins de tout poil, les malfaisants. On a suivi Jack de bar en bar, non pardon, de pub en pub. On l'a ramassé dans le caniveau. On a souffert quand il se faisait tabasser, en gros au moins une fois par roman. On a quelquefois entrevu une lueur d'espoir quand il s'arrêtait de boire ou de se shooter. Au début de ce roman, Jack Taylor, donc je rappelle, il s'appelle Le Démon, il est sur le point, une fois encore d'ailleurs, parce que c'est pas la première fois, de vouloir partir aux États-Unis, comme tant d'Irlandais qui pensent trouver là-bas, outre-Atlantique, une vie meilleure. Mais il est refoulé, et le voilà qui va de nouveau arpenter les rues de Galway, tentant de trouver un pub à l'ancienne, où des sentinelles, alors les sentinelles, entendez en gros des piliers de bar, sont là, silhouettes rassurantes et muettes, mais en tout cas, témoin de la qualité de la Guinness. Parce que ça, faut pas plaisanter avec la Guinness.
Elle est assez jolie d'ailleurs, sa description des
silos. Mais le diable veille, comme d'habitude. Mais là, il est incarné. Est-ce vraiment un démon? Ce monsieur K, monsieur Karl ou Kurt, qu'il a croisé à l'aéroport? Bien loin de vouloir pactiser avec ce qui pourrait être son meilleur client, son meilleur sujet, monsieur Karl va tout faire pour détruire celui qui, depuis des lustres, se dresse quand même contre lui. Des meurtres abominables vont se succéder, touchant à chaque fois un peu plus Taylor dans sa chair, dans son âme. Âme et chair qu'il soigne à coups de Xanax, Jameson et Guinness, dans l'ordre qu'on veut. Étrange trilogie, on pourrait même dire étrange trinité, pour s'opposer à celui qui représente le mal. Il semble que dans cet épisode de la vie de Jack, Ken Bruen a convoqué tous les démons qui ont petit à petit détruit l'existence du détective irlandais. Ainsi, c'est quand même pas un hasard s'il habite maintenant Nuns Island. Alors mon accent vous aura tout de suite fait reconnaître l'île des nonnes. Donc je le traduis quand même, hein, donc l'île des nonnes. Lui qui a tellement eu affaire dans les épisodes précédents à des bonnes sœurs, des prêtres, ainsi qu'à des rites barbares. Je rappelle que dans un roman qui s'appelait Chemin de Croix, il y avait la crucifixion volontaire d'un jeune.
Ou les fameuses Magdalene Sisters.
Voilà, les Magdalene Sisters. Ce n'est pas non plus une coïncidence. Si ce qui ressemble à sa meilleure amie, mais c'est comme, je pense que c'est sa meilleure amie, Ridge, enfin peut-être la seule, c'est une flic, une guardia, elle se fait tabasser en essayant de protéger une petite trisomique. Et je rappelle que Serena, la gamine qui est morte il y a quelques romans, c'était aussi une petite trisomique. Le mal a tellement rôdé autour de Taylor qu'il n'est pas franchement étonnant qu'il se matérialise sous les traits d'un homme aux longs cheveux blonds. Ce démon est partout, mais surtout et avant tout dans la tête de Jack Taylor. Et on assiste à un face-à-face dont on sait déjà, par toute façon la personnalité de Ken Bruen et celle de Jack Taylor, qu'il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Peut-être seulement un répit dans la vie du détective. Les différentes histoires, ça nous convainc pas autant que les précédents. Mais ce qui est absolument génial, c'est la prose et le style de Ken Bruen. Des phrases à minima, des ellipses, des brûlures à même les mots, à même les phrases. La musique, comme tu le disais, qui est omniprésente, un rythme qui pulse, qui bat, qui ne s'essouffle jamais. En gros, je crois qu'au bout de cette première partie, à travers ces 3 romans, on peut l'affirmer, Ken Bruen, c'est un des meilleurs auteurs de romans noirs actuels. Alors très rapidement, il nous reste quelques secondes.
Oui, moi j'allais dire qu'on pourrait en fait avoir pour ce démon quelque chose comme de la sympathie for the devil.
Voilà, c'est un petit peu ça, mais on l'a plus pour Jack Taylor que quand même pour Monsieur Karl.
Donc ça sera pour le livre. Donc.
Chez Fayard Noir, très belle couverture pour Le Démon, une enquête de Jack Taylor. Jacques, à
Ken Bruel et Reed Farrell Coleman, Tower chez Rivage Noir.
Et à la série noire chez Gallimard, on a Munition, la dernière aventure des R&B, et c'est toujours de Ken Bruel. À tout de suite.